Limitation de vitesse, vous êtes alerté en temps réel. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 1er août.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Europe 1, 18h-20h,
votre grand journal du soir,
Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. À la une de l'actualité ce soir, une ministre en guerre contre Nokia l'affirme, veut supprimer 400 emplois à Lannion. Agnès Pannier-Runacher était sur place, nous serons dans les Côtes d'Armor dans un instant dans votre journal François Claus. Bonsoir François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
18h20, les premières mesures de la Convention citoyenne deviennent palpables et concrètes. Elles concernent aussi la grande distribution. Nos hyper sont en train de verdir, ne pas tuer les centres-villes, mieux manger, privilégier les circuits courts et locaux, un casse-tête pour nos supermarchés. Je recevrai le PDG des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix au programme, la loi bioéthique autorisant la PMA. Deuxième lecture qui va débuter à l'Assemblée. Et puis l'écologie, vos questions, vos réactions. Vous prenez la parole, bien sûr, au 39-21. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir. Et on écoute Le Monde changer sur Europe 1.
Europe 1, il est 18h.
C'est important, ça veut dire que le dossier effectivement est scruté de près, ça n'augure forcément de rien de définitif, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la table.
La volonté politique face à la réalité économique, comme en témoigne ce salarié de Nokia à Lannion, dans les Côtes d'Armor, où la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher s'est rendue cet après-midi très en colère après l'annonce d'un plan social qui prévoit 400 suppressions d'emplois en Bretagne. Nous serons à Lannion dans un instant.
Et pourtant, comme au mois de mai, et malgré la multiplication des plans sociaux, le chômage a baissé en France au mois de juin. Explication d'Emmanuel Duteil dans ce journal.
Plus de chaudières au fioul en 2022, des logements qu'il faudra isoler obligatoirement dès 2023 et des terrasses chauffées interdites dès le prochain hiver. Le gouvernement commence à appliquer les premières mesures concrètes de la Convention citoyenne et ce n'est déjà pas du goût de tout le monde.
Nos entreprises aujourd'hui luttent pour leur survie et on vient leur annoncer une mesure qui va avoir un impact considérable sur leur activité.
9 mois après la loi de bioéthique, elle revient au Parlement et le débat est toujours aussi passionné.
Entorse confirmée ce soir pour Mbappé, un délai de reprise qualifié d'environ 3 semaines qui laisse planer sérieusement le doute sur sa participation au quart de finale de la Ligue des Champions. La Bourse de Paris en légère baisse, 0,34% à 4939 points. Et puis Thierry, il a fait chaud, très chaud dans le sud-ouest cet après-midi, pas loin des 40 degrés. L'association SOS Seniors de Toulouse se mobilise déjà.
On appelle quotidiennement, ce qui permet de déclencher une éventuelle visite d'une assistante sociale qui va pouvoir leur apporter un ventilateur, un pack d'eau, des brumisateurs.
Est-ce que cette poussée du thermomètre dans le sud-ouest ne va pas forcément durer, Valérie Darmon ?
Attention aux orages ce mardi parce que ça va cogner fort depuis le Massif central jusqu'aux Alpes du Nord avec une forte activité électrique, de la grêle et des rafales de vent sur les reliefs. Et puis à la une également de la météo en ce mardi, eh bien la baisse des températures. On va perdre 4 à 5 degrés par endroit. Attention, elles vont remonter en fin de semaine. Mais en tout cas, demain, elles évolueront entre 19 à Brest et 35 à Grenoble.
Merci Valérie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Claus.
Nous ne laisserons pas Lannion mourir à petit feu, commentait dès ce matin la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher après l'annonce d'un plan social décidé par la direction de Nokia. 1200 suppressions d'emplois en France, dont 400 pour le seul site de Lannion. La ministre s'est immédiatement déplacée en Bretagne, Johanna Chabas, pour apporter son soutien aux salariés du géant finlandais des télécommunications, des salariés particulièrement inquiets.
Oui, elle a passé une heure avec l'intersyndicale pour partager avec eux son incompréhension face à ce plan social. Puis elle est allée directement à la rencontre des salariés qui l'attendaient à l'extérieur, où elle a rappelé son opposition aux suppressions de postes.
Notre objectif, c'est de faire en sorte de préserver au maximum les compétences qui sont ici, avec Nokia ou sans Nokia.
Mais elle a été très vite interrompue par un salarié.
Arrêtez le blabla, des promesses concrètes.
Moi j'agis.
400, on est en train de tuer la région. Faites quelque chose pour la région.
Car ici, les salariés sont à cran. Le plan social doit supprimer 400 de postes. C'est plus que la moitié des effectifs. Donc beaucoup ici pensent que cela signerait la fin du site. Agnès Pannier-Runacher a promis de s'entretenir avec le directeur de Nokia. Et s'il n'écoute pas, d'encourager la concurrence pour reprendre le site. La présence de la ministre aujourd'hui a rassuré les syndicats comme la CFDT représentée par Bernard Trémulot.
C'est important. Ça veut dire que le dossier effectivement est scruté de près. D'un côté, c'est rassurant. De l'autre, ça n'augure forcément de rien de définitif. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la table.
Pour continuer les négociations, le gouvernement et les syndicats attendent maintenant l'arrivée du nouveau directeur de Nokia qui prend officiellement ses fonctions le 1er septembre.
Merci Johanna Chabas en direct de Lannion pour Europe 1.
Alors bien sûr, il y a Nokia, il y a Airbus, Camailleux, Renault. Les annonces de plans sociaux se multiplient, François.
Et pourtant, surprise, le chômage en France a baissé au mois de juin. Une baisse de 4,6% qui a fait suite à celle du mois de mai, moins 3,3%. Des chiffres, Emmanuel Duteil, qu'il convient bien sûr de relativiser.
Oui, on peut vraiment parler de baisse en trompe-l'œil. Alors pourquoi ? Eh bien déjà, parce que si on regarde sur un trimestre, la hausse est de plus de 20%. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse le mois dernier uniquement pour ce que l'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé pendant le mois. Et le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 0,5% en juin si on regarde cette fois toutes les catégories, et notamment celles qui intègrent ceux qui recherchent un emploi mais qui travaillent un tout petit peu dans le mois. Alors comment ça s'explique ? Les personnes qui avaient des petits contrats d'intérim ou de toutes petites missions et qui sont inscrits malgré tout à Pôle emploi s'étaient retrouvés sans rien à cause du confinement. Ils étaient donc venus gonfler les rangs des chômeurs qui ne travaillent pas du tout et donc cette fameuse catégorie A. Et là, ce que l'on voit depuis mai, c'est qu'une partie de ces personnes retrouvent leur petite mission. Ils sont toujours inscrits à Pôle emploi mais ils viennent gonfler les autres catégories. Et donc si on prend toutes les catégories, on est au plus haut en termes de demandeurs d'emploi depuis 1996 et la création des chiffres. Et le pire, c'est que le plus dur est devant nous. Et oui, parce que les chiffres de juin montrent une forte hausse des inscriptions après fin de formation et des premières inscriptions pour ceux qui entrent sur le marché du travail. Et puis surtout, les plans de licenciement annoncés vont se concrétiser dans les mois à venir.
Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe.
La fin des chaudières au fioul, l'interdiction des terrasses chauffées, la création de deux nouveaux parcs naturels régionaux, voilà les premières mesures concrètes issues de la Convention citoyenne pour le climat.
Des mesures qui ont été décidées ce matin en Conseil de défense écologique. On sait que les bâtiments mal isolés, ce qu'on appelle les passoires thermiques, représentent 20% des gaz à effet de serre. Interdiction des chaudières au fioul et au charbon en 2022. Des nouveaux critères pour tous les logements dès le 1er janvier 2003. Alors c'est peut-être un petit peu plus gadget, mais c'est source déjà de débat. Interdiction des terrasses chauffées dès la fin du prochain hiver, Clément Le Saffre.
Ah oui, il faudra désormais se couvrir pour boire son café en extérieur l'hiver. Fini les braseros et les chauffages au gaz qui font vivre les terrasses toute l'année. Le gouvernement a décidé d'interdire ces dispositifs très énergivores et inversement, les restaurants et magasins climatisés l'été ou chauffés l'hiver auront, eux, l'obligation de fermer leurs portes pour éviter les déperditions d'énergie. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a dénoncé des aberrations écologiques.
On ne peut pas, pour le simple confort de ne pas avoir à ouvrir la porte d'un magasin, climatiser la rue en plein été lorsqu'il fait 30 degrés. Et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver lorsqu'il fait 0 degré pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud.
Mais voilà, l'interdiction des terrasses chauffées n'est pas franchement du goût des restaurateurs déjà durement touchés par le Covid-19. Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie Restauration, ne décolère pas.
Nos entreprises aujourd'hui luttent pour leur survie et on vient leur annoncer une mesure qui va avoir un impact considérable sur leur activité. Je rappelle que les terrasses, en moyenne sur l'année, c'est 30% du chiffre d'affaires des établissements. Le président de la République a promis de la concertation. Et encore une fois, il n'y a eu aucune concertation.
Alors malgré tout, pour ne pas pénaliser trop vite les restaurateurs, cette interdiction n'entrera en vigueur que l'an prochain, au mieux au printemps 2021, après l'hiver.
Merci Clément Le Saffre.
La Convention citoyenne qui vise aussi la grande distribution, nos hyper doivent se verdir. Et vite, Michel-Édouard Leclerc sera mon invité dans une dizaine de minutes maintenant.
Diagnostic confirmé cet après-midi pour Mbappé, c'est bel et bien une entorse à la cheville. On s'en souvient, contracté face à M. Loïc Perrin en finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne. Le communiqué du PSG est tombé cet après-midi et évoque un délai de reprise, je cite, d'environ 3 semaines. Mon cher Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1, tout est dans ce environ.
Il y a une part d'intox, sans doute chacun peut apprécier le délai à sa guise, 21 jours ou plutôt 15. On ne peut pas exclure que les médecins se soient donné un peu de marge. Cela va aussi dépendre de la faculté de récupération de l'attaquant français. Il est entré dans la première phase, les soins, il faudra ensuite cicatriser, puis reprendre le chemin de l'entraînement. Tout cela peut-il tenir en 15 jours ? c'est-à-dire avant le quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Difficile à dire. Pour les dirigeants parisiens, il s'agit aussi de gérer l'absence de la star à l'extérieur et dans le vestiaire. Éviter de faire du feuilleton Mbappé une série en plusieurs épisodes. La cheville de Mbappé ne doit pas devenir la cuisse de Zidane. À l'époque, la blessure du capitaine des Bleus avait pris une importance démesurée lors du Mondial 2002. Il ne faut pas non plus démoraliser les remplaçants. Ils sont justement là pour ça. Remplacer les joueurs absents ou en méforme. Paris et le joueur engagent maintenant une course contre la montre, mais elle devra se faire le plus discrètement possible.
Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1.
Il est 18h09, Europe 1. Votre grand journal d'histoire sur Europe 1 avec François Claus, Thierry Lagirale.
La PMA qui revient ce soir à l'Assemblée nationale et génère 9 mois après des débats toujours aussi passionnés. On en parle dans un instant, à tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, François Claus, Thierry Lagirale.
Et c'est l'un des débats les plus clivants dans la société française, pour ou contre la PMA.
Cette fameuse procréation médicalement assistée, la possibilité pour les femmes vivant seules ou pour des couples de femmes de procréer. La fameuse loi bioéthique qui revient cet après-midi devant l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après le report, souvenez-vous, dû à la crise sanitaire. On constate, 9 mois plus tard, Jean-Jacques Héry, que la fracture est là et toujours là.
Oui, d'ailleurs, avant même le début des discussions, il y a déjà eu des manifestations cet après-midi devant l'Assemblée nationale où une vingtaine de membres d'associations opposées au projet de loi étaient présents, dont la Manif pour tous. Toute cette semaine, les députés devront examiner pas moins de 2300 amendements. Au centre de tout, il y a évidemment l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, qui permettrait aux femmes seules et aux couples de femmes d'avoir un enfant grâce à un don de sperme. En débat aussi, le droit de congeler de conserver ses ovocytes pour une éventuelle future grossesse. Par ailleurs, un point annonce déjà des débats houleux dans l'hémicycle, la ROPA. Derrière cet acronyme, une technique médicale qui permet à une femme de faire un don d'ovocytes à sa compagne si celle-ci souffre d'infertilité, afin ensuite de pouvoir porter l'enfant du couple après un don de sperme. Bref, ça commence d'une minute à l'autre, ce débat. C'est parti pour au moins 25 heures. Dans les faits, ça sera sans doute le double toute la semaine. Politiquement, l'enjeu est très fort pour Emmanuel Macron, puisque la PMA est sans doute l'une de ses promesses de campagne les plus symbolique. Un député résume la chose ainsi, ça va être un peu plus rock'n'roll qu'en première lecture.
Jean-Jacques Herry.
Justement, la PMA, que dire aux enfants, quand et comment le leur dire? À 19h20, je recevrai le médecin pédiatre Catherine Dolto.
L'actualité à l'étranger, des opérations militaires à la frontière nord d'Israël, la frontière avec le Liban, dans ce secteur si controversé, des fermes de Sheba au pied du Golan. L'armée israélienne a fait part de combats, a appelé la population à rester calfeutrée chez elle. Échange de tirs nourris autour du village de Marjayoun, au sud Liban, dans cette zone contrôlée par le Hezbollah. Israël affirme avoir, je cite, déjoué une tentative d'infiltration terroriste. Aux États-Unis, un conseiller de Donald Trump testé positif au Covid, et pas n'importe lequel, M. O'Brien, qui occupe le poste stratégique de conseiller à la sécurité nationale. Il s'est isolé, on nous dit. Il n'y aurait pas de risque d'exposition pour le président ou le vice-président. L'Allemagne, à son tour, prévoit d'imposer des tests aux voyageurs. Et la Belgique réduit les regroupements de personnes autorisés à 15 et qui ne pourront plus dépasser 5 personnes.
François, il fait chaud, le thermomètre a frisé, voire dépassé aujourd'hui les 40 degrés dans le sud-ouest du pays.
Et ce fut même, on peut le dire, l'une des journées les plus chaudes depuis le début de l'été dans notre pays, notamment dans les départements du Lot, du Tarn ou des Pyrénées-Orientales. Cette montée en température est appelée peut-être à durer dans les prochaines heures. Et comme souvent dans ces cas-là, eh bien, il y a le spectre de 2003 et de sa canicule et on s'inquiète, Pierre Herbulot, pour les personnes âgées.
Oui, comme en Haute-Garonne, à Toulouse très précisément, 38 degrés au moment où l'on se parle, la mairie a mis en place Allo Senior, une ligne d'appel pour les personnes âgées. Des centaines d'inscrits et parmi eux, 223 personnes très précisément sont complètement isolées et donc particulièrement vulnérables. La mairie est en lien permanent avec la préfecture et Météo France pour suivre l'évolution dans les prochains jours de ces fortes chaleurs. Marine Lefebvre, déléguée au Senior pour la ville, me l'a dit tout à l'heure, tout est prêt pour dégainer le plan canicule.
Là, les équipes sont dans les starting blocks en ce moment. Donc le registre des personnes en situation de fragilité prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on appelle quotidiennement ces personnes. On les appelle le matin, ce qui permet de déclencher l'après-midi une éventuelle visite d'une assistante sociale qui va pouvoir leur apporter un confort matériel, comme par exemple un ventilateur, un pack d'eau, des brumisateurs, mais qui va également pouvoir déclencher éventuellement une hospitalisation via un médecin si c'est nécessaire.
Alors on voit, Pierre Herbulot, que le système d'alerte est en place. Est-ce qu'on doit redouter dans les prochaines heures ce qu'on appelle un phénomène caniculaire?
Alors pas dans les prochaines heures, mais plutôt en fin de semaine. En clair, pour parler de canicule, il faut que pendant 3 jours, les températures atteignent 36 degrés en journée et ne redescendent pas en dessous des 21 la nuit. Ça pourrait bien être le cas dans le sud de la France et en région Rhône-Alpes à partir de jeudi. Un anticyclone devrait faire venir une masse d'air chaud du Sahara et donc rendre l'air irrespirable.
Merci Pierre Herbulot.
Merci beaucoup François Claus. Retour à 18h30 bien évidemment. Alors canicule ou pas, on va voir ça avec le temps tout de suite. Valérie Darmon, ça se dégrade demain sur les reliefs.
Eh oui, parce que qui dit chaleur dit orage, évidemment. Alors surtout de la Nouvelle-Aquitaine jusque sur la façade est, voilée sur l'Occitanie et le Massif central. Le ciel va rester très nuageux ou couvert. Aussi, en début d'après-midi, le temps va se dégrader très nettement sur Rhône-Alpes avec l'arrivée des orages sur les Alpes du Nord et puis sur l'Auvergne et sur le Lyonnais. Ces orages qui vont être brefs, qui vont être forts, avec un risque de grêle et de violentes rafales de vent, en particulier sur les départements alpins. Soyez prudents si vous devez faire une randonnée dans ces coins. Le pourtour méditerranéen reste à l'écart, le temps va rester chaud et sec sur la Méditerranée. Sur le nord et sur l'ouest du pays, le temps va rester également calme, peu nuageux en général, un petit peu plus chargé sur le Finistère en matinée. Les températures du matin restent douces, entre 10 et 16 degrés sur le nord-ouest, 16 à 22 ailleurs. En revanche, effectivement, les maximales sont en baisse. C'est pourquoi on peut parler de pic de chaleur, mais pas de canicule pour le moment. 19 à 24 degrés pour demain, annoncé par Météo France sur les régions qui bordent la Manche. 25 à 31 ailleurs, 32 à 35 sur le Languedoc, la vallée du Rhône et la Provence. Par exemple, 34 à Manosque, 33 à Valence et à Lyon ainsi qu'à Avignon, 32 à Carcassonne, ces températures qui perdent jusqu'à 8 degrés par rapport à aujourd'hui.
Merci beaucoup Valérie, la météo des plages à 18h30.
Europe 1, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et dans un instant, votre invité.
Alors, un PDG de supermarché, alors que cette convention citoyenne fait désormais quasiment la loi en France, un moratoire contre la construction des hyper près des centres-villes. Comment on favorise le bien-manger, les circuits courts? La grande distribution est-elle obligée de se verdir? Mais à quel prix? Je pose ces questions à Michel-Edouard Leclerc. Il vient d'arriver en studio dans un instant sur Europe 1.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous. Thierry Dagiral, vous recevez ce soir le PDG des centres commerciaux Leclerc, Michel-Edouard Leclerc.
Bonsoir Michel-Edouard Leclerc.
Bonsoir, bonsoir à vous.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce soir. D'abord ce petit point, la note émane de l'exécutif. Elle demande aux employeurs de prévoir 10 semaines de stock de masques pour les entreprises pour pouvoir faire face à une résurgence potentielle de l'épidémie. Vous êtes prêt? Vous avez une forte demande en ce moment?
Complètement. D'abord, pendant le confinement, peut-être un peu tardivement, mais on est allé les chercher.
Ouais.
avec des avions, en affrétant des avions, par Bolloré, les centres Leclerc ont fait appel à tout, plein de réseaux. Et ouais. Donc, oui, on a...
Vous savez combien vous en avez exactement en stock?
Oui, il y a près de 100 millions. Ouais. On a aussi, s'il le faut, des thermomètres. Parce que cette fois-ci, on ne se fera pas prendre. Quoi. Et ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Tout le monde attend tout de l'État. Je trouve que d'abord pour les finances publiques et puis pour la réactivité, c'est bien de dire à chaque entreprise, à chaque médecin, à chaque profession libérale d'avoir son stock. Quoi.
On sent une tension. Vous la sentez, vous, parmi les consommateurs qui viennent dans vos supermarchés par rapport à cette possible reprise d'une pandémie?
Non, pas trop. Je vais vous dire... attention, hein, on est dans la distribution alimentaire. Mmh. On marche bien aujourd'hui. Mais tout ça est un peu artificiel parce que n'oubliez pas que les chiffres qui vont sortir là, sur la période, oui. Les progressions, la croissance, ça masque le fait qu'il n'y a pas de restauration collective, que depuis 4 mois, un pan entier de l'activité alimentaire...
Ça veut dire que vos écoles, résultats sont en demi-teinte finalement. Derrière les bons résultats, il y a une réalité.
Derrière le résultat, il y a un transfert de l'achat alimentaire dans les hypermarchés qui ne se font pas dans les cantines par exemple. Et puis dans le non-alimentaire, ça rame, hein, ça n'a pas trouvé, les Leroy Merlin, les boulangers, les artisans, ça n'ont pas retrouvé le chiffre d'affaires d'avant. Donc on va quand même vers une très grosse crise, et quand bien même l'État a pris les devants, on peut toujours critiquer, mais on est quand même le seul pays au monde qui a payé le chômage partiel pour plus de 10 millions de personnes, la rentrée va être très très dure. Et moi je pense que au-delà de l'écologie, du bien manger, etc., la question du pouvoir d'achat va être centrale. Et moi, mes vacances, je la prépare avec mes collègues sur cette rentrée.
C'est-à-dire que vous ferez quoi, vous, précisément, dans vos centres Leclerc à la rentrée pour accompagner, justement, ces ménages?
Justement, parce qu'il y a eu quand même, malgré le soutien de l'État, malgré des allocations en hausse pour la rentrée des classes, il y a eu entre 200 et 400 euros par foyer salariés qui ne sont pas rentrés. Donc, la notion du prix, plus que de la promo, d'ailleurs, la notion du prix...
Concrètement, vous ferez quoi, du coup, Michel dans Leclerc?
Eh bien, justement, on va prendre sur nos marges. Et par exemple, dès ce week-end, opération prix coûtant dans les centres Leclerc. Alors, je ne suis pas un militant pour pousser la vente de carburant, on est bien d'accord, on est à l'heure de l'écologie. Mais enfin, à la fois matériellement, Leclerc lance le truc chaque année. Mais franchement, cette année, ça prend une ampleur particulière.
Parce c'est un vrai engagement, c'est-à-dire que quand vous annoncez cela, vous dites « je vais réduire mes marges », c'est-à-dire que vous n'allez pas lorgner sur les distributeurs, sur les producteurs, sur les agriculteurs.
Non, c'est
vous
déjà,
prenez sur vous.
C'est déjà dur pour les industriels, pour les agriculteurs.
Bien sûr.
Même si l'ensemble de la distribution a joué la préférence française, voire l'exclusivité française pour les fraises, etc., pour les produits agricoles. Mais là, sur le pouvoir d'achat, il faut à la fois des produits symboliques, il faut redonner confiance. Et donc, le carburant, l'opération prix coûtant sur les carburants, ça veut dire que c'est moins cher sur le budget pendant les vacances et tout ça. Mais c'est aussi, ça veut dire que les prix reprennent toute notre attention. Et donc, nous, Leclerc, on estime que c'est notre mission. Donc, dès ce week-end, ça, on va être très fort. Prix coûtant, ça veut dire... pas de marge.
Bien sûr.
C'est pas sur le fournisseur.
Non, oui,
alors, en l'occurrence, c'est des pétroliers, mais c'est pas sur le fournisseur qu'on va aller chercher la baisse de prix. Mais peut-être qu'on va faire aussi moins de promos, parce que tout le monde fait de la surenchère de promos et tout ça. C'est bien pour la pub à Europe 1 et tout, mais
on
mais
vous entend régulièrement.
Par
tout à
contre,
fait,
c'est
voilà.
Le prix qui va, qui doit revenir au cœur du dispositif.
Michel-Édouard Leclerc, la Convention citoyenne et ses 146 mesures retenues par Emmanuel Macron, c'est une bonne chose ou vous dites, parlez-moi franchement, c'est un empêcheur de tourner en rond pour la grande distribution.
Ah non, 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 moi je suis pour faire évoluer le modèle. Je ne crois pas au discours de la rupture. Ça, les
mais
gens
même
se
quand il vous impose un moratoire...
Attends, il y a plusieurs choses. Il y a
le
mieux
fond.
Manger,
très bien.
Moins de CO2,
ça
etc.
Va dans le bon sens,
enfin, franchement,
ça.
Qui est contre, moi je suis pour. Et si on peut être un acteur pionnier de ce changement, on y va à fond. La suppression des plastiques, le remplacement des plastiques, le recycler,
vous l'anti-gaspillage. Vous le faites, vous, dans vos magasins ?
Complètement.
Vous
il
le
y
faites
a une personne chez nous
on peut faire du
par
vrac.
Sujet sur... Oui, absolument.
D'accord.
On est un des
comme
plus gros
Carrefour,
distributeurs.
On peut venir avec son...
Comme chez Carrefour, comme vous dites.
C'est la même
vous
chose.
Voyez, ça ne me gêne pas. aujourd'hui, la distribution moderne... Vous savez, Leclerc est déjà devenu le troisième distributeur de bio. Donc, ce n'est pas depuis simplement le mois dernier. Sur les sacs plastiques, je suis venu à Europe 1 depuis 20 ans pour vous dire qu'on les supprimait. Donc, Leclerc veut être pionnier de cette mutation du modèle de consommation.
Mais quand la Convention citoyenne impose ce fameux moratoire sur la construction des zones commerciales en périphérie des villes, là, vous vous dites « aïe ».
Non, je dis que le politique détermine ce qu'il veut. Mais pour le moment, ce n'est pas clair.
Pour vous, c'est quoi ? C'est un manque à gagner de combien ? Vous avez des projets ?
Non, ramenez pas tout au business.
Mais
c'est
non.
Juste d'abord.
C'est
quand
combien
on,
de,
quand
c'est
un entrepreneur investit,
combien
c'est pour 15 ans. Donc, moi, pas de problème. Et pour mes collègues, que ce soit d'Intermarché, de Système U ou autre, pas de problème. On va aller là où on nous dit d'aller. Mais pour le moment, ils ne sont pas clairs. Parce que d'un côté, on vous dit plus en périphérie. Mais en même temps, vous voyez bien que les maires des grandes villes disent plus de circulation dans les villes, plus de magasins dans les villes. Et donc, simplement, 80% de la distribution en France se fait aujourd'hui à travers des hypermarchés, ce qu'on appelle la grande distribution. Donc, on la met où ? Si c'est sur Internet, il n'y a pas de problème. On va savoir faire. Juste, simplement, ne prenons pas le sujet par le petit bout. Ne serait-ce que les friches, par exemple.
Ouais.
On les laisse en friche ou on en refait quoi ? Des terres agricoles ou on en refait des magasins ? C'est pas clair.
Parlez-moi
et
franchement.
En ville, moi, je suis prêt à venir livrer en ville. Leclerc est prêt à venir livrer en ville. On
par
a commencé avec Leclerc chez moi, le drive. Mais simplement, il faut qu'on nous dise le schéma d'aménagement du territoire que nos élus veulent porter. Et
dites-moi,
nous, on s'adaptera.
Michel-Édouard Leclerc, 26 000 emplois de commerce non alimentaire et de proximité détruits en 2020. Ça vous agace un peu que de toujours passer pour celui qui tue les centres-villes ?
Non, moi, j'étais en centre-ville. Donc, je suis né dans le magasin de mes parents. En
centre-ville.
On nous a chassés des villes. Donc, ça me fait marrer d'entendre des jeunes députés dire « Ah, vous tuez le centre-ville ».
Mais la grande distribution qui est...
Présente-moi ton père, je te dirais, anciennement député.
La grande distribution qui est la seule fautive dans ces villes qui sont en train de se perdre et de mourir. Ça vous agace un peu ? Vous dites « Ah, c'est bon ».
Non, après, les polémiques, c'est les mêmes. Enfin, vous êtes jeune, vous ne vous rappelez pas.
Mais
moi, je suis à Europe 1 depuis 40 ans pour parler des commerçants de centre-ville. Donc, en fait, c'est ça. L'aménagement du territoire, il faut se projeter, il faut être dans le temps long et pas dans le temps de la réponse médiatique ou des réseaux sociaux. La distribution, nous, on est nés épiciers, on est nés provinciaux. Les Intermarchés, les Leclerc, les U, on était en centre-ville. Même les Carrefour étaient en centre-ville, on a oublié. Après, qui a créé des ZAC, des ZAD, des zones commerciales ? Ce sont les élus, les aménageurs. Maintenant, ils nous disent, revenez en centre-ville, banco, dites-nous où, comment, avec quelle voiture, comment on livre. Mais nous, on s'adaptera.
Michel-Édouard Leclerc, dans les mesures de la Convention citoyenne, il y a aussi une proposition qui veut rendre obligatoire la présence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes dans les négociations entre agriculteurs, centrales d'achat, sociétés de l'agroalimentaire, ça manque de transparence.
Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On est le pays déjà le plus fonctionnarisé. On négocie plus à deux, on est à trois, puisqu'il y a l'administration à côté. Donc, si c'est une manière de créer des emplois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. Non, ce que je crois surtout, c'est que, enfin, faut revenir aux choses importantes. La mutation du modèle de consommation, c'est fondamental. Parce que ça va retirer la croissance, ce sont de nouvelles opportunités. Et c'est une manière de créer de la valeur ajoutée, y compris pour nos agriculteurs. Faire du bio, faire des produits plus transformés, etc. Par contre, vraiment, puisqu'on parle du plan de relance, ce qui est très important, et c'est ce qu'a dit le Premier ministre, et c'est un peu nouveau, c'est ce que dit aussi le député européen dans les Échos ce matin, faut arrêter d'opposer le social et l'écologie, l'économique et l'écologie. Moi, je ne crois pas à la décroissance. La décroissance, ça se fera au détriment de l'emploi, avec beaucoup d'impacts négatifs dans le revenu des foyers. On ne peut pas faire de l'écologie contre le pouvoir d'achat. Donc, tout ce qui est meilleur, tout ce qui est mieux pour la planète, tout ce qui est mieux pour la santé, il faut le rendre accessible. Accessible. Donc, je ne dis pas le prix le plus bas, etc. Je dis des prix accessibles. Et ça, c'est le combat de Leclerc, mais ça doit être aussi, aujourd'hui, porté par le politique.
Le message est passé. Grand merci à vous. Michel-Edouard Leclerc, ce soir sur Europe 1. Merci.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir. Thierry Dergiral.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir. Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion, et Alexandre Malafaï du think tank Sinopia, PMA et écologie au programme ce soir. Vos questions, vos réactions, 39-21 bien sûr. À tout de suite.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres, François Claus.
La ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, au chevet de Nokia à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, après l'annonce par le géant finlandais des télécoms de la suppression de 1200 emplois en France, dont 400 pour le seul site de Lannion. 9 mois après l'interruption des débats dus à la crise sanitaire, la loi bioéthique revient ce soir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour des débats qui s'annoncent toujours aussi passionnés autour de la procréation médicalement assistée, autorisant les femmes seules ou les couples de femmes à faire un bébé. 2300 amendements ont été déposés. De nouvelles normes d'isolation thermique pour tous les logements en France à partir de 2023. La création de 2 nouveaux parcs régionaux au Mont Ventoux et dans la baie de Somme. Voilà les premières mesures concrètes que le gouvernement entend appliquer par décret après la Convention citoyenne pour le climat. Incident militaire cet après-midi à la frontière nord d'Israël. Échange de tirs nourris entre le Hezbollah qui dément toute participation et Israël qui prétend avoir déjouer une infiltration terroriste sur son territoire. Et puis le diagnostic pour Mbappé est confirmé, sorti sur blessure lors de la finale de la Coupe de France en torse de la cheville, au moins 3 semaines d'indisponibilité. C'est pas sûr pour le quart de finale de Ligue des Champions contre Bergame.
Merci François. Prochaine édition complète à 19h. La météo des plages, Valérie Darmon. On va commencer par les plages de l'Atlantique.
Et oui, parce qu'il va faire beaucoup moins chaud demain et ça va faire du bien. Une moyenne de 22 degrés depuis l'Orient jusqu'au Sable de l'Aune et de 23 à 24 dans les Landes ainsi qu'en Gironde et au Pays Basque pour un océan assez peu agité mais tout de même un petit peu à cause des rafales de vent à 40 km/h, entre 18 degrés dans le sud Bretagne et 23 sur la côte basque. C'est toujours nuageux mais de moins en moins tout de même, hein, le long de la Manche aussi depuis Brest jusque Dunkerque. Vous retrouver de très très belles éclaircies, une moyenne sur les plages de 20 degrés et une eau quasi à la même température, donc pas de risque d'hypothermie. Pour les plus courageux, une eau entre 17 et 20 degrés aussi, 20 pour la baie du Mont-Saint-Michel. Là où il fait le meilleur, bien évidemment, parce que vous êtes à l'écart des orages ou encore des très très fortes chaleurs, bien sûr sur le pourtour méditerranéen, avec une moyenne sous les parasols aux alentours de 28 à 30 degrés. 28 par exemple pour l'Hérault, pour le Gros-du-Roi, et 30 degrés pour les Calanques de Marseille, et une eau entre 21 dans l'Hérault et toujours 25 dans les Alpes-Maritimes. Une eau qui est très calme.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite avec vous, Thierry Dagiral. On décortique l'actu avec les grandes voix. Vous êtes ce soir avec Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion, et Alexandre Malafaï du think tank Sinopia.
Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci d'être présents sur Europe 1 ce soir. On va commencer à parler de cette loi bioéthique qui rentre à l'instant, qui entre en discussion en ce moment même à l'Assemblée nationale pendant toute cette semaine. Est-ce que c'était le bon timing, le bon moment pour relancer ce texte à haut risque à la fin de la session parlementaire, alors qu'il n'y a pas, bien sûr, beaucoup de députés dans l'hémicycle et alors qu'il y a sans doute d'autres priorités ? Réponse ce matin sur Europe 1 de Gwendoline Desarméniens, de l'association des familles homoparentales. On l'écoute.
Le mariage pour tous a été très dur à vivre pour toute la communauté. Ça a été très très violent. J'ai pas du tout le sentiment aujourd'hui que les gens sont apaisés, non. On arrive avec des nouveaux débats qui sont des nouvelles problématiques et je pense que ça va encore être un combat, oui.
Chloé Morin, est-ce que c'est le meilleur moment en ce moment où on demande d'apaiser la société?
Alors il y a deux choses qu'il faut rappeler. D'abord, c'est la première chose, c'est que ça revient à l'Assemblée, mais le processus avait été lancé
avant le Covid.
Il y a une partie de la majorité d'Emmanuel Macron qui lui reproche de ne pas l'avoir fait avant.
Oui, c'est une promesse ancienne d'Emmanuel Macron.
Effectivement, c'est une promesse de campagne. On a une grosse majorité de l'opinion, c'est à peu près les deux tiers, qui soutient, en tout cas pour ce qui est de l'ouverture de la PMA pour toutes. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, en termes de calendrier, ça n'arrive pas exactement au meilleur moment. Parce que par rapport aux préoccupations sanitaires et économiques,
bien sûr.
Ça peut donner le sentiment que le législateur aurait sans doute pas plus important, mais en tout cas plus urgent à faire en ce moment. Et ça me rappelle la période du mariage pour tous, justement, où le principal reproche qui était adressé à François Hollande à ce moment-là, c'était pas tellement de vouloir tenir une promesse, c'était de laisser traîner. Et de laisser le débat se durer.
Donc, une volonté vraiment de faire dans l'express, quoi. Une semaine, c'est parti, ça va au Sénat, et puis il faut vite se sortir de ce.
Ben, au moins, ça permettra de couper
compliqué.
Un peu court à la critique, disant vous n'êtes pas sur les priorités. Les priorités des Français aujourd'hui.
Alexandre Malafaï, même les marcheurs entre eux, la majorité, elle est divisée sur cette question. De la PMA.
D'abord, oui. En fait, dans cette loi, il n'y a pas que la PMA. Il y a une trentaine de points qui sont visés. C'est des débats qui sont très compliqués, qui ont été quand même lancés il y a déjà un certain temps. Donc, on ne part pas de zéro. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le calendrier. Et en même temps, il faut bien y passer. Parce que même s'il y a des urgences sanitaires, il y a une certaine nombre de réalités humaines qui sont derrière les enjeux liés notamment à la PMA pour toutes, mais pas seulement, les questions d'adoption, de filiation, etc. Donc là, vous avez des débats qui ont été évoqués. Il y a quand même une réunion pendant, je crois, une année de la commission éthique qui a fait beaucoup de consultations. Donc il y a énormément de choses qui sont remontées. On peut quand même regretter, évidemment, que ça se passe maintenant, parce que, évidemment, tous les parlementaires ne sont pas là, et c'est peut-être un peu dommage. On peut regretter que l'avis du Sénat n'ait pas été pris en compte, mais ça confirme une fois pour toutes que, de toute façon, globalement, voilà, on a beau, quand on est minoritaire, on a juridiquement tort. Donc le Sénat, là encore, sert pas forcément à grand-chose. Maintenant, vous avez des débats de fond sur lesquels, voilà, il faut aller, il faut les passer, parce que ça concerne des gens dans la vraie vie, et c'est important. Maintenant, moi, je regrette un dernier point, c'est peut-être trop de sujets. C'est-à-dire que par rapport à tous les enjeux qui sont posés, objectivement, en plein cœur de l'été, l'appropriation par la population française de tous ces sujets...
Tout ça en 25 heures, je crois, c'est ça.
Exactement, voilà, trop de sujets, et sur certains d'entre eux qui sont quand même extrêmement compliqués, sensibles, et avec on est en train de jouer un peu aux apprentis sorciers si on va trop loin dans ces domaines. Voilà.
Et notamment, Chloé Morin, il y a cet amendement dont on parle beaucoup, l'amendement ROPA. Il faut expliquer ce que c'est, une méthode qui autorise donc une femme en couple à se faire implanter un embryon conçu avec les ovocytes de sa partenaire. Certains disent finalement que c'est la porte ouverte à la GPA ensuite.
C'est la grande difficulté de ces sujets, c'est qu'en fait, en réalité, quand on observe l'opinion, derrière le fait qu'une grande majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, approuve la PMA, on se rend compte très vite quand on creuse qu'il y a des
questions sur l'après.
Qu'il y a des questions, voilà, il y a beaucoup de questions sur ce que ça veut dire, sur... la société que ça dessine et donc l'opinion n'est pas forcément formée et forcément effectivement ça pose une question démocratique de fond de se dire faire ça en plein été à un moment où les gens sont plus ou moins en vacances, est-ce qu'ils vont pouvoir s'approprier les choses, est-ce que voilà, c'est un vrai sujet.
Alexandre Malafaï.
Oui, il y a deux éléments. Il y a vraiment l'aspect de la modélisation. C'est est-ce qu'on se pose toutes les questions sur les conséquences, des conséquences à 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Et c'est aussi pour ça que ceux qui se mettent en travers aujourd'hui, parfois pour des questions politiques, parfois pour des questions religieuses, parfois pour des questions philosophiques ou éthiques, posent quand même des questions qui sont de dire est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur la société que nous voulons ?
C'est ça.
C'est vrai que quelque part, en l'espace d'une génération, une grosse génération en 20 ans, dire on est passé d'un modèle où globalement la famille c'était un homme et une femme et on n'en sortait pas.
Exact.
Aujourd'hui la famille c'est quoi ? C'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, un homme seul, une femme seule. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que les adultes, il y a les enfants, avec toutes les conséquences qui sont posées, et tout ça en l'espace de très peu de temps. Donc là encore, je reprends le terme d'appropriation, l'appropriation par la société de toutes ces mutations et l'acceptation de ce qui va avec tout ce que ça veut dire, au sens de dire on vit ensemble et on est d'accord pour tout ça, bah c'est pas gagné, quoi. Et donc quand on accumule les sujets et qu'on les traite tous comme ça, pêle-mêle, comme on l'a fait peut-être avec le mariage pour tous, qui n'avait pas aussi été très bien présenté dans le bon contexte, bah à la fin, vous avez des clivages qui n'arrivent pas à se résoudre. Alors c'est dommage parce qu'au bout du compte, la plupart des sujets sont des sujets essentiels qui touchent les gens directement.
Et d'ailleurs, les opposants, l'Église, dit, Chloé Morin, que derrière la PMA, c'est aussi la gestion de la suppression du père de la société.
Oui, alors, il y a de toute façon une opposition très forte, à la fois religieuse ou philosophique de certains. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir que ça n'est pas un clivage gauche-droite, en l'occurrence. Vous avez des gens à gauche qui sont extrêmement contre, sinon la PMA, du moins la GPA.
Ouais.
Et donc, ce sont des questions qui sont, d'ailleurs, politiquement, qu'on a du mal à traiter. On a vu qu'on avait des conventions citoyennes qui essayaient de traiter certains sujets. On en parlera tout à l'heure, peut-être, avec l'environnement. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a plus tellement les outils pour permettre aux gens de vraiment s'approprier les sujets, puisque le Parlement, finalement, c'est un endroit qui compte peu à leurs yeux. Ouais. Enfin, personne ne regarde les débats au Parlement et on sait que l'influence réelle des parlementaires est de moins en moins grande. Mais les conventions citoyennes, finalement, les gens ne se sentent pas davantage représentés. Et pareil pour les commissions d'éthique, ou, etc., etc.
Allez, on continue à parler de cette PMA, pas que, en discussion depuis quelques minutes maintenant à l'Assemblée nationale. On va vous écouter également, 39-21, vous prenez la parole. À tout de suite.
Le débat des grandes voix sur Europe 1 continue dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. Vous êtes avec Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion, et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia, et vos réactions au 39-21.
Et justement, Bruno du Rhône vient de nous appeler au 39-21. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Merci de nous avoir appelé. Vous êtes en couple avec un homme, vous venez d'avoir un enfant, félicitations à vous, via
C'est ça, on va fêter les 3e anniversaire de notre fils cette semaine.
La GPA donc réalisée aux États-Unis. Vous réclamez-vous la GPA en France ou pas ?
Non, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de brouiller le débat sur le sujet. Donc, pour l'instant, la PMA pour toutes, c'est déjà très bien.
Ouais.
Par contre, on verra dans un acte 2 ou, comme pour parler, version Netflix, dans une deuxième saison.
Mmh.
Mais pour l'instant, la GPA est autorisée dans certains pays.
Mmh.
Donc, essayons de gérer déjà les enfants qui naissent par cette technique légalement dans d'autres pays.
Ouais. Qu'est-ce que vous me dites qu'il y a une question, la question sur la filiation, je vous écoute.
Eh bien justement, comme la GPA n'est pas légale chez nous, mais
d'accord,
qu'elle est légale dans d'autres pays,
d'accord,
ces enfants qui naissent français,
j'entends,
à l'étranger, quand ils rentrent,
ouais,
eh bien, on leur déchoit souvent l'autorité parentale d'un des deux parents.
D'accord.
Et donc moi, ce que j'attends de la loi bioéthique, pour les hommes en couple et qui ont eu un enfant, eh bien, c'est que la transcription de l'acte de naissance et la filiation soient définitivement gérées et qu'on ne soit plus obligé de passer par des procès ou des démarches coûteuses à certaines, voire dégradantes.
Merci à vous, Bruno. Alexandre Malafaille vous répond.
Les évolutions de la société sont généralement suivies très tardivement par la loi sur ce type de sujet. On est face à des réalités et puis pendant un certain nombre d'années, parfois des dizaines d'années, vous avez un vide juridique. C'est typiquement le cas pour le cas de Bruno avec son compagnon, son mari, et qui ont un enfant qui a été adopté à l'étranger dans des procédures parfois qui sont extrêmement rigoureuses aux États-Unis notamment. Ils sont très pointus sur ces questions-là. Et vous avez après une zone d'entre-deux qui n'est pas satisfaisante. Donc de toute façon, il faudra à un moment donné trouver un système, un dispositif qui permet de régulariser ce type de situation, à défaut d'accepter la GPA en France.
Ouais.
Mais à un moment donné, on ne peut pas placer l'enfant dans une zone de non-droit. Ce sont des enfants, ils ont des droits, il faut les prendre en considération. Alors c'est vrai que c'est compliqué là aussi, sur un plan philosophique, sur un plan spirituel, sur un plan religieux. Mais à un moment donné, il faut régler les problèmes parce que ça concerne vraiment, vraiment des êtres humains. Et puis pour ce qui est de la PMA pour toutes, il y a une bonne nouvelle derrière tout ça, au-delà des débats techniques, au-delà des questions, tous les enjeux, ça confirme une fois quand même que les femmes ont envie d'avoir des enfants.
Ouais.
Moi, je trouve que quelque part, le fait que les femmes ont envie d'avoir des enfants, quelle que soit leur situation matrimoniale, de couple ou autre, c'est quand même une jolie une jolie démarche, quoi. Tu vois tous ces témoignages, on veut des enfants. Alors oui, les modèles ont changé. Alors c'est vrai que ça peut surprendre et je peux reconnaître qu'il y a de quoi être surpris parfois, mais à un moment donné, voilà, il faut vivre avec son temps et d'une certaine manière, on ne peut pas revendiquer la liberté et puis refuser que la liberté passe par là, quoi.
Mais c'est une parfaite conclusion pour ce soir. On va continuer bien sûr d'en parler à 19h20. Restez avec nous. Je recevrai le médecin et pédiatre Catherine Dolto. On continuera à réfléchir sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle maintenant de la Convention citoyenne. Il y a une volonté d'aller vite. Ça, c'est la marque Castex. Hein. Il faut aller vite. Il faut mettre en place des mesures qui peuvent s'appliquer là tout de suite. Trop vite, Chloé Morin.
Alors, il y a, à mon avis, le changement de méthode aujourd'hui, il est motivé par le fait que, globalement, sur la première partie du quinquennat. Mmh. Emmanuel Macron avait un ministre emblématique, en tout cas pour une bonne partie de cette première moitié, c'est-à-dire Nicolas Hulot.
Ouais.
Il a fait des choses, quoi qu'on en dise. C'était quand même, par exemple, pour juste prendre un exemple, mais le seul à avoir tenu la promesse de fermer une centrale nucléaire, alors que François Hollande avait fait cette promesse, il ne l'a pas fait.
Ouais.
Donc il a un bilan, mais dans l'opinion, c'est considéré comme pas grand-chose.
C'est ça. On a l'impression que Macron court toujours derrière cela. Il agit au niveau international, en tout cas il est assez repéré au niveau international, mais en France, ce n'est pas le roi de l'écologie, dans les sondages en tout cas.
Voilà, donc il a rebondi sur les résultats des municipales qui étaient favorables aux Verts pour se dire je vais changer de méthode, je ne vais pas mettre une star au ministère de l'écologie. Je vais mettre peut-être quelqu'un de plus pratique, qui connaît mieux les mécanismes politiques du Parlement, de l'administration, etc. Ouais. Et on va essayer de faire du très concret, du très pratique, moins de symbolique peut-être, mais quelque chose qui rentre plus vite dans le quotidien des gens. Et peut-être que de cette manière-là, qui sait, il sera crédité d'avoir fait avancer la cause écologiste.
Alexandre, il y a quand même les annonces du jour, très concrètes dans notre quotidien, concernant le fuel, etc. Il y a aussi l'argent qui est mis sur la table, hein, 100 milliards d'euros de plan de relance, 30 seront consacrés à la transition écologique. Il y a quand même des choses là, on est dans le concret.
Il y a un peu de tout en fait.
Ah.
Il y a un peu de tout, on a quand même... Malgré tout, en filigrane de tout ça, un peu quand même le sentiment qu'il y a une élection présidentielle en 2022 et que le président de la République quand même a été un peu pris au piège de sa convention citoyenne dont il a ouvert le spectre de la réflexion tellement large qu'à un moment donné, après les élections municipales, dire bah « non, finalement, j'en veux pas de vos propositions », c'était prendre le risque d'être très, 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 très en danger. Voilà, donc on prend tout et puis on voit comment on peut faire, sachant que là-dedans, il y a vraiment des bonnes idées, mais il y a aussi des choses qui laissent un peu, en tout cas, un peu sur le carreau. Franchement, la question, par exemple, on fait tout un pataquès. Là, moi, je veux bien qu'on nous parle de maintenant, là encore, d'un sujet majeur qui est les questions du chauffage, des terrasses, des cafés. Très sincèrement.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Sauf que c'est ce qu'on retient.
Les passoires thermiques, ça, c'est la vie quotidienne des gens et c'est intéressant.
Interdiction
des chaudières à fioul et au charbon, ça, c'est du concret.
D'accord. Je veux bien. Mais alors, juste un point. Ouais. Moi, je veux bien que sur toutes ces questions-là, on nous dise concrètement quel est le bilan carbone, par exemple, des terrasses chauffées. Et qu'on nous dise ensuite. Qui va payer et quelles sont les conséquences pour ceux qui sont concernés? Parce qu'après, si c'est pour gagner l'équivalent, je sais pas, de 2 HLM qu'on fermerait à l'année, à un moment donné, tuer des dizaines de cafés, hôtels, restaurants qui n'ont pas besoin de ça dans le contexte actuel, est-ce que c'est une bonne idée? Pareil pour les passoires thermiques. Qui a décrété, qui a fait les règlements, qui est les règles de construction? Qui les a décrétés? C'est pas les propriétaires. Qui a encouragé le chauffage électrique en France avec la filière nucléaire? C'est pas les propriétaires actuels. Mmh. Alors évidemment, là-dedans, il y a des sales types, des gens qui utilisent vraiment des logements qui les louent dans des conditions épouvantable à des loyers très chers, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a des réalités économiques. Donc si demain, on veut transformer le paysage urbanistique de la France, il va falloir aussi s'en donner les moyens et pas uniquement faire payer ceux qui sont propriétaires. Non, c'est comme ça, c'est pas trop, parce qu'on l'a fait avec la voiture, on le fait tout le temps. C'est facile de dire aux citoyens, l'État s'est trompé, maintenant vous allez assumer.
Un mot rapide de Claude Morin, puis on reviendra bien sûr.
D'ailleurs, ça pose la question de l'acceptabilité, parce que tout le sujet de la Convention citoyenne, c'était pas de dire ça va être des experts, ils vont sortir des super propositions qui n'existaient pas avant. D'ailleurs, on a vu qu'elles existaient toutes à peu près, soit issues du Parlement, soit des ONG. C'était de dire, on va construire de l'acceptabilité. Et par le cheminement de ces citoyens, en fait, on va embarquer toute la France dans l'acceptation de mesures qui parfois sont effectivement douloureuses. Et j'ai le sentiment que cet objectif-là n'est pas vraiment rempli. En fait.
Allez, l'écologie aux armes, citoyens, on continue à en parler avec vous au 3921 dans un instant. À tout de suite.
Il est 18h50, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix. Autour de vous ce soir, Thierry Dagiral, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia et Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion. Et vos réactions au 3921.
Et Anne nous a contacté au 3921. Bonsoir Anne, vous nous appelez Toulouse.
Oui, bonsoir, oui tout à fait. Et merci de prendre ma question.
Ben, merci à vous.
Voilà. Je me posais la question, et c'est en plein dans la convention citoyenne, c'est comment aider les entreprises pour lever certains freins. Par exemple, je pense il y a des propositions qui ne coûteraient rien, ni au gouvernement, ni aux contribuables.
Lesquelles ?
Ce qui serait, par exemple, de faciliter les homologations des matériaux bas carbone et les solutions écologiques durables. Je prends un fait très concret. Mmh. Nous sommes en train de construire un cinéma écologique et ça va être le premier de France à bas carbone, à énergie positive.
À
ceux qui veulent voir ces Utopia Pont-Sainte-Marie, ils peuvent taper sur Internet. Il y a mmh. tout, il y a un dossier complet. Mmh. Et par exemple, alors qu'il n'y a pas plus coupe-feu et plus bas carbone que mmh. de la terre crue, c'est pas un truc qui est homologué.
D'accord.
On essaie de mettre des toilettes sèches dans un ERP. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale en 2010. Ouais, il y avait eu une réponse positive.
Ce que vous me dites, Anne, c'est ça, c'est qu'il faut, il faut qu'il y ait une réponse politique derrière des textes de loi et que tout soit concentré vers cette ambition. C'est ce que vous nous dites.
Voilà, parce que par exemple, les toilettes sèches, nous, on sait faire. On est en train de parler de valorisation des urines. Mmh. On est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture. Donc, il y a des possibilités, mais on a des freins parce que ben, les pompiers vont nous dire ben, la terre, c'est pas ouais. feu, il n'y a pas d'homologation et les urines, on ne sait pas. Voilà. Et comment on peut faire pour lever ces verrous-là? Voilà.
Ouais, bonne question. Merci à vous, Anne, de nous avoir contacté au 3921. C'est vrai, Alexandre Malafaille, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il faut créer une filière? Est-ce qu'il faut créer des formations pour que ça aille plus vite, etc.? C'est bien de dire cela maintenant, il faut que ça suive. Ça ouais, suive.
C'est à chaque fois, c'est des sujets qui sont d'une complexité extrême parce qu'on est dans un cadre réglementaire, législatif, on est tenu par les normes, on est tenu par le principe de précaution, on est tenu par les réglementations européennes, enfin, voilà. Après, il y a aussi des réalités économiques, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, en disant, bah, allons-y, mais à un moment donné, si le logement coûte trois fois plus cher à construire ou à rénover, il y a aussi un problème de l'accord d'acceptabilité. Enfin, voilà, donc, c'est des sujets qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence, éviter les grandes annonces, essayer d'être concret. Alors, il y a plein de manières d'agir, très sincèrement, depuis le comportement des habitants, la façon dont on peut rénover les logements, il y a énormément d'enjeux. Et c'est vrai qu'on est dans un pays, un carcan, enfin, réglementaire, administratif. Ce qu'elle disait, cette dame, sur le fait qu'il y a des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés alors qu'ils pourraient l'être, et il y aurait un peu de bon sens, sauf que pour arriver à faire bouger simplement ça, c'est des dizaines et dizaines de réunions interministérielles, d'évolutions réglementaires qui sont très compliquées à construire.
La question sous-jacente derrière est la suivante, Chloé Morin. On a dit un 30 milliards sur deux ans. Ces investissements, il faut bien sûr les pérenniser pour réussir cette transition. Est-ce que deux ans, finalement, pour changer la donne, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi?
Non, je pense que l'idée, c'est de dire on enclenche une dynamique et comme ça, arrivé pendant la campagne présidentielle, on nous dira, bah voilà, on a commencé à faire le travail, il faut prolonger pour vraiment faire quelque chose de décisif. Mmh. Mais pour ce qui est de la question des normes, en fait, ça pose une question fondamentale, ça pose la question de l'arbitrage entre le risque et la liberté. Parce que j'ai l'impression, et c'est le cas sur beaucoup de sujets, qu'on a une demande de liberté. Vous avez beaucoup de gens qui disent « laissez-nous faire ce qu'on veut, laissez-nous créer, laissez-nous entreprendre, etc. » Sauf que la liberté va nécessairement avec une part de risque. Et on ne veut plus assumer ce risque. Je prends l'exemple de l'école, par exemple. Mmh. Quand on a déconfiné l'école, on a eu une demande de normes pour se protéger, pour que les profs, pour que les parents, etc., soient rassurés sur le fait qu'il y aurait des garde-fous et que leurs enfants retourneraient à l'école en toute sécurité. Et après, évidemment, on s'est plaint parce que ça a fait un espèce de truc de 62 pages, hyper compliqué, etc. Et c'est un peu comme ça pour tout. C'est-à-dire que pour les normes environnementales, c'est ça aussi. On dit, oui, les normes, c'est chiant, et puis ensuite, quand on regarde en détail, on se rend compte que ça prévient des risques qu'on ne veut pas forcément assumer.
Ah bah c'est la précaution jusqu'au bout. Ouais. Hein, on le voit avec la question du port du masque qui est en train de se généraliser. Et moi, je vous fiche mon billet qu'on ne l'enlèvera plus jamais, ce masque. Hein, je le dis à vos auditeurs, c'est qu'on l'a mis pour le Covid n'est pas terminé. Mais vous verrez que l'année prochaine, il y aura peut-être autre chose, etc. Et on va devoir vivre autrement. Quoi. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Là encore, on ne peut pas mettre le débat sur la place publique. Mais après, il y a un point pour revenir un peu au sujet de fond que vous évoquiez, qui était ce sujet effectivement de la Convention citoyenne et des enseignements qu'on en tire. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer aussi votre attention. C'est quand même le point de la modification de la Constitution. C'est-à-dire qu'à un moment on va rajouter dans la Constitution une couche de contrainte qui est liée en fait à la protection du climat. Moi, là encore, je veux bien qu'on joue avec, les grands principes, parce que tout ça est intéressant, mais ne soyons pas toujours dans cette logique de surenchère française et solitaire. C'est-à-dire que le principe de précaution, tout le monde, tous ceux qui regardent un peu les choses avec du recul se disent que quand même, on a été un peu fort en besogne et qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus contraignant à mettre en œuvre et il y a plein d'effets pervers que l'on voit aujourd'hui. Si on rajoute dans l'article 1 de la Constitution un principe de précaution par rapport à la planète et au climat, je veux dire, on va être les seuls encore à faire ceinture et bretelle au monde.
C'est ça.
Mais après, il faudra pas s'étonner que notre économie ait du mal et patine. Donc il faut trouver là encore, c'est des questions d'équilibre où il faut à la fois engager et transformer et en même temps quand même prendre en compte la réalité dans laquelle on évolue et puis le fait qu'un pays doit rester compétitif. Voilà, il faut qu'il soit vis-à-vis de ses concurrents parce que l'Allemagne n'est pas qu'un partenaire, c'est aussi un concurrent. Et puis vis-à-vis du reste du monde qui globalement sur ces conceptions-là est très très éloigné de nos considérations. Malheureusement, on peut le regretter. Et sachant qu'en dernier point quand même, on est très bon. Enfin, je veux dire, là encore, que vos auditeurs le sachent, la France est un pays qui, en matière de consommation carbone, fait partie des meilleurs au monde. Donc, il faut peut-être aussi, à un moment donné, positif. Quoi.
Juste pour terminer rapidement, on en parlait tout à l'heure avec Michel-Édouard Leclerc. On n'aurait pas pu être concret sur le bien manger aussi, là, manger les courts-circuits, les circuits courts, tout ce qu'on se raconte. Hier, Yannick Jadot, dans Le Parisien, disait, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, on attend du concret, notamment le chèque alimentaire permettrait aux familles vulnérables d'acheter des produits bio. Il n'y a pas des petites choses du quotidien qui pourraient être mises en place, qui seraient vraiment pour le coup très concrètes et qui serviraient aussi les foyers, Chloé Morin ?
Ah si, ça, il y en a sans doute. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui devient central pour les Français. L'idée de manger sain, de manger proche de chez soi, des produits issus de près de chez soi qui permettent aux gens de vivre, c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement vraiment mette le paquet.
Alexandre Malafaye, pour conclure.
Oui, là-dessus, on est d'accord. Parce que c'est vrai que derrière tout ça, vous avez des filières qu'il convient d'organiser et d'encourager. Et là, pour le coup, on a un vrai sujet qui est aussi un sujet d'aménagement du territoire, de création de filières de proximité et de bien consommer. Et je crois qu'on a tous envie d'aller vers ça. Ça, c'est sûr.
Merci infiniment à vous deux. Merci d'être passés ce soir sur Europe. Un grand merci.
À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Le journal de 19h, prix des masques et des gels hydroalcooliques. Attention aux arnaques et aux produits miracles. À tout de suite.